planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon et Pascal CV.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Au FM 93.
FM 93. Ça me parle. Ça me parle.
7h01, samedi le 16 mars 2019. Bonjour à tous, bon matin, bienvenue au FM 93. Mon nom est Paul-Raphaël Charon, je suis en compagnie de son illustre majesté Pascal CV.
Salut!
Bonjour Pascal, c'est un plaisir de te retrouver. Kevin Bridge qui est de retour avec nous.
Bonjour. Hola.
Kevin.
Bonjour à vous deux.
Commençons donc la journée avec les nouvelles, Kevin.
Oui, bien, Alexandre Bissonnette a réagi aux attentats meurtriers perpétrés en Nouvelle-Zélande. Par voie de communiqué, les avocats de Bissonnette ont exposé la réaction de leur client. L'assassin de plusieurs membres de la communauté musulmane de Québec se dit très affecté par cet événement et est particulièrement troublé du fait que son nom soit associé à cette attaque. Il ajoute qu'il ne cherche pas à être imiter ou à servir de modèle. Il demande également que toute personne vivant des problèmes ou des difficultés en parle ou aille chercher de l'aide, chose qu'il n'a pas réussi à faire. L'ancien président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi, croit que les avocats de Bissonnette usent de stratégie en publiant ce communiqué dans un contexte où sa sentence est portée en appel. Quelques milliers de personnes ont marché dans les rues de Québec hier après-midi pour le climat. La manifestation a rallié principalement des élèves du secondaire et des étudiants du cégep et des universités. À la fin de la manifestation qui s'est déroulée dans le calme, les organisateurs ont convié tous les manifestants à un autre rassemblement qui aura lieu le 27 septembre. Ils espèrent pouvoir rallier étudiants et travailleurs pour une grève mondiale pour le climat. Et Donald Trump a signé hier après-midi le premier veto de sa présidence. C'est dans le but de financer la construction de son mur à la frontière avec le Mexique. Rappelons que jeudi, le Sénat avait annulé la procédure d'urgence que le président avait décrétée à cette fin.
Ça va être une drôle de journée aujourd'hui parce que le max est fixé à 2 et il fait présentement 3. Donc, on va perdre un degré au courant de la journée. Il y aura des précipitations. Là, sous quelle forme? De la pluie, de la neige, slush poppy.
Attends, c'est de la pluie, là. Un slush poppy?
Ouais,
wow.
Ben écoute, on sait pas. Hein?
On le prendrait, ça.
Oui, on le prendrait. Peu de précipitations, cela dit, mais il y a une genre de veille d'alerte, de bourrasque de neige. Il y a eu ça, à un moment donné, pendant l'hiver, une espèce de d'orage hivernal, là. Il se pourrait qu'il y ait ça qui se produise aujourd'hui, mais ce sera de courte durée. Visibilité réduite, ça va compliquer les déplacements, mais pas pour longtemps, heureusement. Moins 9, c'est le minimum la nuit prochaine sous un ciel variable, donc les précipitations arrêtent. Et on a la paix au moins pour les 4 prochains jours. Demain, c'est la belle journée du week-end. Max, moins 5 sous un ciel variable. Copier-coller pour lundi, retour au travail. Présentement, à Québec, c'est 3 degrés.
Dans la Ligue nationale de hockey, l'entraîneur du Canadien, Claude Julien, se porte à la défense de l'attaquant Andrew Shaw, qui a vertement critiqué ses coéquipiers après la défaite de 2-1 face aux Islanders de New York. Shaw a affirmé que certains trios ou joueurs prenaient parfois des soirées de congé, ce qui expliquait les insuccès de l'équipe depuis quelques semaines. Claude Julien a dit comprendre sa frustration tout en tenant de minimiser ses propos. Le tricolore va accueillir ce soir les Blackhawks de Chicago dès 19h. Hockey junior, les Remparts se sont inclinés 4-1 face aux Voltigeurs de Drummondville. Édouard Saint-Laurent a été le seul à marquer dans la défaite. Et de son côté, Maxime Comtois des Voltigeurs a terminé la rencontre avec un tour du chapeau. Et au tennis, la Canadienne Bianca Andreescu a obtenu son billet pour la finale du tournoi d'Indian Wells en Californie en s'imposant en 3 manches devant la 6e joueuse mondiale, l'Ukrainienne Irina Svitolina.
Je vous avoue que je me suis pas levé ce matin en me disant « En ouverture d'émission, je vais parler de tennis. » Ça arrive pas vraiment. Mais,
c'est un peu rare, oui.
Non, mais c'est phénoménal ce qui se passe. Faut quand même le mentionner. C'est une parenthèse, mais je peux pas passer à côté parce que Bianca Andreescu, c'est une jeune Canadienne de 18 ans. 18 ans, c'est pas vieux. Là, on s'entend, t'es loin d'avoir atteint le sommet de ta carrière. En finale d'un grand tournoi.
Exact.
Après avoir battu les meilleurs joueurs, Muguruza, puis...
Oh non, elle a battu quand même des joueuses qui étaient...
Svitolina, c'est des grandes joueuses, là.
Puis honnêtement, même je regardais le classement, on dit que la semaine prochaine, après déjà se retrouver 33e raquette mondiale, à seulement 18 ans.
Ah non, c'est vraiment phénoménal.
Même Denis Shapovalov, chez les hommes, qui est également canadien...
Qui est le chouchou, la
qui est le chouchou, mais dans une courte période comme ça, n'avait pas réussi à se classer aussi haut.
Alors, pour les amateurs de sport en général, et pas nécessairement de tennis, mais juste pour les amateurs de sport, et même, Pascal, les amateurs de belles histoires.
De belles histoires, oui, hein? Ça, c'est moi.
Bon, mais les amateurs de belles histoires sont servis. Quand on regarde le tennis canadien, puis la relève du tennis canadien en ce moment, c'est vraiment phénoménal. c'est difficile pour moi de pas commencer l'émission ce matin. On va tout de suite aller dans les journaux, évidemment, comme on le fait tout le temps, là. Mais c'est difficile de pas commencer avec l'horreur qui s'est produite en Nouvelle-Zélande. C'est difficile à décrire. C'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on pense quand ce genre d'événement-là se produit. Tu sais, évidemment, tout le monde a ses expériences personnelles par rapport à ça, mais 49 morts dans une fusillade, 49 personnes qui ont rien demandé, qui ont, tout ce qu'ils faisaient, c'est d'être en train de prier à mosquée, tu sais.
La chose la plus vulnérable que tu peux faire, écoute, et la plus pacifique.
C'est une horreur, mais je t'avoue que moi, les bras me sont tombés quand, évidemment, puis je sais que c'est comme ça pour plusieurs d'entre nous, mais quand on a vu les images circuler des chargeurs avec le nom de Bissonnette d'inscrit dessus, là, je me suis dit, ah non, pas encore, là. Ça recommence, là, tu sais.
Sérieux, je vais me rappeler la face, là, le visage de M. Labidi hier matin quand je me suis dirigée à la Grande Mosquée pour aller chercher des commentaires, savoir ce que vous savez, est-ce que tout va bien. Il dit, moi, j'ai passé la nuit là-dessus, puis quand on lui a dit, il y a des médias en Nouvelle-Zélande qui avancent qu'il y avait le nom d'Alexandre Bissonnette écrit sur le chargeur. Il a arrêté de parler, puis il savait pas.
Ah non?
Non, il savait pas. Il l'a appris par notre question. Imagine son visage.
Oh! Alors, c'est vraiment affreux. Puis, bon, bilan pour l'instant, 49 morts, plus de 50 blessés. Grosso modo, le gars s'est présenté à mosquée vers 13h30, 13h40. Ouvre le feu sur des gens complètement vulnérables.
Des enfants, des vieilles dames, des hommes, n'importe qui, là. Tous sur son
passage. Absolument. Après avoir tué une quarantaine de personnes, il s'en va. Il traverse quelques kilomètres en auto. Il se présente dans une autre mosquée, dans la ville de Christchurch. Ouvre le feu sur des gens. Ça a pris quelques heures. Il a été appréhendé par les policiers. On a compris que c'était une espèce de fanatique là qui s'est radicalisé sur Internet, qui avait écrit un manifeste de plusieurs dizaines de pages, qui avait publié quelques minutes avant l'attentat, qui expliquait comment il s'était radicalisé, pourquoi, c'était quoi ses intentions. C'était bon, puis on se rend compte que c'était un malade. Là,
il parlait de Charles Manson là-dedans aussi, c'était tout pêle-mêle.
Puis je t'avoue que moi, j'ai fait l'effort de pas retenir le nom du gars. À date, ça marche encore.
Ouais.
De pas le mentionner volontairement. J'ai pas regardé la fameuse vidéo parce que le gars s'est filmé.
Oh non, je suis pas capable non plus.
De pas regarder la vidéo puis de pas lire le manifeste. Même si peut-être qu'il aurait fallu que je le fasse par devoir pour mon travail. Là.
En mettant dans les médias.
Ben, c'est ça. Mais malgré ça, je me suis dit non, pas cette fois-là. Cette fois-là, là. Je veux pas le connaître, le gars. Tu sais, on finit tout le temps par les retenir, ces noms-là. On vous parle de Bissonnette constamment. J'arrêterai pas de le nommer. Parce que, ici, à Québec, y a pas personne qui connaît plus son nom, là. Il est comme trop tard.
Puis souvent, c'est dommage, justement, qu'on retienne, tu sais, le nom de ces personnes-là qui ont fait autant de mal que ça, là.
Ben, c'est ça. Puis on a comme un cas précis. C'est un seul cas, mais un cas qui nous démontre que on n'est pas fou de penser que ça existe. Le fameux phénomène là en anglais de copycat, là, mimétisme, là, c'est-à-dire le gars qui se radicalise puis qui prend d'autres comme exemple, et d'autres même qui sont morts en faisant des attentats, qui les considère comme des martyrs, et donc qui va les imiter pour poursuivre leur mission, entre guillemets. Je suis en train de me dire, faut-tu arrêter de les nommer? Faut-tu arrêter de les... Tu sais, le gars s'est filmé... Il a mis ça en direct sur Facebook en plus, là. Puis ça, je vais y revenir. Je comprends pas comment ça a pu prendre 17 longues et interminables minutes avant que Facebook réagisse, là. Mais, tu sais, si le gars s'est filmé, là, c'est parce qu'il voulait que ça circule.
Mais il voulait une certaine gloire.
Il voulait que les gens le voient.
Ouais, ouais.
Il voulait qu'on le glorifie. Alors, je me dis, ben, peut-être que si je regarde pas la vidéo, puis c'est sûr qu'il y a une curiosité en dedans. Puis il y a ma job aussi qui me dit, ben, faudrait peut-être que tu le regardes pareil. Mais je me dis non, je le ferai pas, j'y donnerai pas raison. Je lui donnerai pas ça.
Non, c'est ça. Tu fais bien parce que t'abordes le fait que t'as une curiosité. Moi, zéro pinball, ça m'intéresse même pas.
Moi, je l'avoue.
Oui, puis c'est correct, là. Et puis je te crois en disant comme, hey, j'ai une curiosité. Je pense que la majorité des gens ont cette curiosité-là. Pas nécessairement malsaine, mais de se dire, mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis donc même pas à l'aise, je vais aller voir, voyons le monde, où est-ce qu'il s'en va. Mais ce que j'apprécie, c'est que t'aies cette curiosité-là, mais t'aies la conscience de dire, non, je donnerai pas un clic de plus.
D'ailleurs, parlant de ça, parce qu'évidemment, c'est des gens qui veulent se faire du capital, j'ai pas compris et j'ai ressenti un certain malaise quand j'ai vu apparaître hier après-midi. Le communiqué des avocats d'Alexandre Bissonnette. Alexandre Bissonnette réagit à la fusillade en Nouvelle-Zélande.
Mais on dirait que je penche plus du côté là, de la communauté musulmane en disant, crime, c'est-tu pour ce qui s'en vient, là, pour la, le processus d'être en appel, ouais, pour alléger la peine. Mais dans le, dans le communiqué, on dit que non. On dit que c'est vraiment juste pour se prononcer en disant, faites pas ça, prenez pas exemple sur moi. J'ai de la misère à croire ça.
Puis tu sais, on sait pas grand-chose. La réalité, c'est qu'on sait pas grand-chose. Est-ce que les avocats ont dit, regarde, voici ce qu'on va faire, Alexandre? Mm. Ou est-ce que c'est lui qui a dit, hey, les avocats, envoyez ça? Ou tu sais, on sait pas l'intention vient d'où. Mais il demeure que moi, j'ai un gros malaise, là. D'abord, qu'est-ce qu'on en a à faire de, ça,
de
ce que
de son opinion, pense? Je sais que j'ai pensé la même affaire.
Le gars est enfermé pour avoir perpétré des meurtres sordides. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de ce que lui pense de fusillade? Battre,
je vais le dire de même,
ben non,
là.
Mais c'est ça. Alors, écoute, publie le communiqué. Puis là, écoute, d'un autre côté, il y a une logique derrière le fait que les médias le diffusent, dans le sens que c'est un contenu qui est d'intérêt, mais c'est un intérêt public, vraiment, de publier le communiqué de Bissonnette. Pas sûr de ça pantoute.
Et
moi,
autant que je m'en contrefous, mais je peux même pas vous l'expliquer. Je pourrais le dire de façon plus vulgaire, là. Autant que je me dis, est-ce que c'est un devoir d'avocat qui se sont dit, check, là, moi, même si c'est mon client Alexandre Bissonnette, c'est répugnant ce qu'il a fait, ça m'écœure. Je travaille à la défense, donc c'est malheureusement mon cas. Et je vais essayer d'aller chercher une petite parcelle d'Alexandre Bissonnette qui dit de pas prendre exemple sur lui et quoi que ce soit pour en faire un message planétaire. Tu comprends-tu?
Ouais, écoute, ben, si c'est ça, ils l'ont mal fait parce que hey, c'est genre Alexandre Bissonnette réagit. Là. C'était ça qui était écrit dans les médias partout. Là, t'sais. Incluant nous autres, là, tu sais, je veux dire, on est un média, on l'a partagé parce que tout le monde le partage.
C'est ça, ça attire l'attention, là, tu as dit, hey, réagis, ouais,
c'est ça.
Ce qu'il fait là.
Il y a une espèce d'engrenage aussi, un effet d'engrenage, là, dans le sens où, moindrement qu'il y a un des médias, ben, on va dire, parce que là, on est dans la région de Québec, il y a un des médias de Québec qui le sort, ben, l'autre quotidien va le sortir. Là, il y a une radio qui va le sortir, les autres radios vont le sortir. Il y a ça. Ça, c'est un phénomène qui existe. Mm. Mais à la question, est-ce que la réaction d'Alexandre Bissonnette à la tuerie de la Nouvelle-Zélande à Christchurch est d'intérêt public? Pas sûr de ça, moi.
Non, d'autant plus
loin d'être sûr de
pas ça. Très convaincant pour avoir suivi le procès. Tout le monde a regardé un peu ce qui se passait. C'était tout le temps up and down à savoir s'il était en accord ou pas avec son geste. Fait que, rendu là, est-ce que tu y crois? Es-tu convaincant? On n'a vraiment rien à battre de sa réaction.
Puis, comme je l'ai dit tantôt, puis je ferme la parenthèse avec ça parce que je veux pas qu'on s'attarde là toute l'émission non plus sur cette nouvelle là parce que bien qu'extrêmement importante, c'est la nouvelle qui a le plus marqué la semaine là.
Check ça résume notre opinion. Oui. Quelqu'un qui vient nous écrire, la société est malade, l'opinion d'un calvaire de pas d'allure nous importe peu.
Ben c'est ça. Mais c'est ça, mais d'un autre côté, ça nous importait parce que tout le monde l'a publié. Puis, je veux dire, je suis convaincu que si tu regardais là, les statistiques de clics sur Internet de tous les médias, là,
ça doit être
l'article sur lequel le monde a le plus cliqué. Là.
Ouais.
Mais au final, qu'est-ce qu'il dit l'article? C'est, ben, oh, Alexandre Bissonnette, mon Dieu, il est bien, bien désolé. Puis, n'oubliez pas que la demande d'appel, c'est pas pour minimiser les gestes de Bissonnette, c'est vraiment là par souci juridique. OK, mais c'est quoi le rapport avec ce qui vient de se passer en Nouvelle-Zélande? Aucun. Alors, ça donne l'impression qu'ils utilisent pour se faire du capital.
T'sais. J'ose espérer que non.
Mais c'est une impression. C'est la mienne.
C'est celle de M. Labidi, de la communauté musulmane. C'est la ça. Mienne, celle d'un auditeur qui vient d'écrire. C'est sûr que c'est partagé.
Mais on les connaît pas, ces intentions, mais ça crée ce malaise-là. Mm. Puis la dernière affaire, avant de fermer la parenthèse, c'est comment ça peut prendre 17 minutes avant que Facebook réagisse? Tu sais, je suis pas programmeur web, là. Je suis pas dans un bureau dans Silicon Valley, là. Mais pour moi, c'est insensé qu'un gars qui est en train de se filmer Facebook Live, ça prenne 17 minutes. Il y a pas personne. La surveillance qui est faite de Facebook, numéro un. Numéro deux, le lien que Facebook entretient avec les autorités d'un différent pays est pas...
assez fort.
Est pas assez direct. Ouais. Pour qu'en 17, ça prenne 17 minutes de gars qui ouvrent le feu sur des gens puis qui les massacrent.
Moi, le meilleur comparatif auquel j'ai pensé hier, c'est on est capable maintenant, je pourrais te prendre toi, Paul Raphaël, okay, ton visage, là, pas toi pour vrai, un genre de bonhomme Paul Raphaël, te faire dire n'importe quoi sur le web parce que j'ai joué avec les paramètres de ton visage, mais on n'est pas capable de calculer un paramètre d'une arme pour tout de suite le recenser puis faire comme, oh, c'est quoi, il y a une arme sur Facebook présentement, on l'élimine.
Okay, je comprends ce que tu veux
on
dire.
Est assez développé pour faire ça, mais pas assez pour repérer une arme
sur
Facebook.
On fait de la reconnaissance faciale.
Exact.
Ce qui est extrêmement compliqué. mais on n'est pas capable de on pourrait l'utiliser à meilleur escient en faisant de la reconnaissance. Ben oui, c'est brillant ça, t'as raison. De ton côté, Pascal, qu'est-ce qui t'a accroché dans le journal ce matin?
Hey, j'étais pas au courant de ça. Ça sort ce matin, là. Peut-être oui. qu'il y en a qui le savaient déjà. La Cour suprême veut de meilleures preuves pour ceux qui font des leurres sur le web, mettons. Il donne l'exemple, puis bon, moi c'est un exemple qui est assez aberrant ce matin. Un homme, un septuagénaire, qui veut attirer l'attention d'une jeune fille, peut-être mineure ou pas, on ne sait pas ses intentions, et là, qui se crée un faux compte, ou du moins son propre compte avec sa propre personne, puis qui cherche une jeune fille avec qui coucher. Sa plus simple expression, c'est ça. Et là, la couronne dit, on n'est pas capable d'établir hors de tout doute que les gens qui font ça, du leurre sur le web, connaissaient véritablement l'âge de leur victime. Sauf que, regarde l'exemple qu'il donne, OK? Il juge anticonstitutionnel de présumer que l'accusé sait l'âge de sa victime qui est âgée de moins de 16 ans. Par exemple, ce monsieur-là, 70 ans, Douglas Morrison, met une annonce dans un journal où il demande à faire affaire avec une adulte, là, une jeune fille, un peu comme... il cherche en fait sa petite fille.
Oh mon Dieu!
Papa cherchant sa petite fille. C'est ça. Papa recherche sa petite fille sur la plateforme web Craigslist. Arc, déjà là.
Craigslist, c'est pas...
une affaire où tu peux mettre plein d'annonces.
C'est ça, c'est carrément les gens l'EPAC, ouais. Kijiji, ben,
c'est
ça. Là.
C'est comme si lui cherchait sur Kijiji sa petite fille.
Oh,
mais
tu sais,
annonce
Dieu.
À caractère sexuel. Et là, il dit, mais moi, je savais pas là, qu'elle était mineure. Elle me disait qu'elle s'appelait Mia, puis elle avait 14 ans. Je pensais que c'était un jeu de rôle. Donc, t'es pas capable de prouver hors de tout doute que cet homme-là avait des intentions malveillantes.
OK, je vais te dire quelque chose qui m'arrache le cœur, mais... Ce cas-là, honnêtement, ça me dégoûte. Là, je t'ai passé vite sur l'article, je m'étais pas rendu jusque-là, puis ça me donne un frisson d'horreur dans le dos. Mais je suis obligé, sur le plan juridique, je suis obligé d'admettre que l'Internet regorge de faux témoignages, autant de la part de vieux dégueulasses comme ça, puis de pédophiles et compagnie, de gens qui se font passer pour d'autres, que des mineurs qui prétendent être majeurs.
Oh oui, il y a les deux, je sais.
Je le sais que... Puis je sais pas en fait si je suis d'accord ou pas d'accord avec cette mesure-là. Je me fais juste un peu l'avocat du diable ce matin pour les fins de la discussion, là, mais c'est vrai que sur Internet... Mettons, là, moi, je vais te donner l'autre... Parce que l'exemple que tu me donnes, c'est l'un des extrêmes. Je vais te donner l'autre extrême, OK? Je suis un gars de 40 ans et je me cherche une blonde sur Craigslist. OK? J'ai de la misère à rencontrer quelqu'un, peu importe, les sites de rencontres, ça n'a pas marché. Il n'y a personne au bureau.
Tu placardes ta face partout. Hein?
C'est ça. Puis sur Craigslist, je mets une annonce. Homme cherche femme, amateur de plein air et plus. Bon, tu comprends? Puis la personne qui me répond a dit « Ah, salut, moi c'est Nancy, j'ai 38, j'aime le plein air, puis je te trouve cute. » Puis là, ben tu commences à chatter. Puis finalement, tu te rends compte que Nancy 38, c'est Mia 14. Par exemple. Ben là, tu peux pas te faire accuser d'avoir leurré un enfant. Tu comprends?
Ouais. Non, mais d'un autre côté, si moi, j'ai 17 ans, je cherche un chum, je dis que j'ai 17 ans, que je cherche un chum, puis qu'il y a un homme de supposément 35 qui m'aborde, OK?
Oui.
Ben, va falloir que je prouve hors de tout doute que je pensais que cet homme-là avait mon âge quand il disait... C'est n'importe quoi. Moi, le système de justice, je comprends qu'il faut prouver hors de tout doute, mais pour vrai, j'ai un énorme malaise avec le fait que cet homme-là dit, je pensais que c'était un jeu de rôle.
Non, ça, c'est épouvantable. Là. Okay. Puis en fait, le fait qu'on puisse sortir des exemples comme ça sur le fly, aussi diversifié, ça démontre que l'Internet, là, c'est un écosystème qui est hautement instable. Ça fait que c'est sûr que les cours de justice s'adaptent à ça, t'sais, puis essaient de trouver le meilleur moyen d'éviter les erreurs judiciaires tout en mettant la main au collet des criminels.
Puis rappelle-toi quand il y a un pays qui voulait faire en sorte que si tu voulais t'abonner aux réseaux sociaux, tu devais donner une carte d'identité. Moi, dans ce cas-ci, je penche un peu plus vers ça.
OK, j'ai une autre nouvelle qui m'a fait sourire ce matin dans le journal. Sourire parce que il est question du... Hier, le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, était comme en espèce de tournée média, si tu veux. Là. Il était d'ailleurs au micro de Myriam Segal hier midi. Il a parlé avec les gens du journal et compagnie. Parce que on se demande qu'est-ce qui va finir par arriver avec le pont de Québec. Puis je vous dis, j'ai pas réponse aujourd'hui. C'est juste que cette semaine, le journal rapportait que le ministre Champagne, qui est donc responsable des infrastructures, avait proposé au gouvernement provincial, donc de François Legault, OCN, qui est propriétaire du pont, de séparer la facture en trois pour la peinture et la réfection du pont. Ça faisait 186,33 millions chacun. Alors, le provincial, le CN puis le fédéral auraient payé chacun 186 millions pour un total évalué à 559 millions.
Ouais, déjà là, quand ça coûte 559 millions puis que le centre Vidéotron nous a coûté 370 millions, je me pose une question.
Puis en passant, c'était supposé être 400 là, aux dernières nouvelles. Quand on en parlait il y a deux ans, c'était 400. 1 ou 2 % d'inflation, 559 millions. C'est bon.
Avec la peinture, ça coûte cher.
C'est ça. Ça doit être la fermeture de Sico.
Ah!
Qui a fait augmenter le prix de la peinture. Alors, tout ça pour dire que c'est loin d'être réglé, parce que là, le gouvernement de François Legault, par le biais de François Bonnardel, notamment ministre des Transports, a dit ben, il n'y en est pas question.
Mais voyons donc.
Alors que, quelque part, faudrait que le provincial peut-être paye un peu, parce que c'est eux autres qui utilisent le pont. Quand tu y penses, les routes, les autoroutes, c'est de juridiction provinciale. Là, il y a une route qui passe sur le pont. Mais c'est comme si le provincial était locataire, parce que le propriétaire, c'est le CN. Mmh. Et le CN, on n'a aucune idée si eux autres ils ont l'intention de payer ou pas. Mais mon petit doigt me dit qu'ils n'en ont rien à faire.
Ils ont les deux pattes croisées sur le divan, puis ils regardent Virginie.
C'est ça. Puis d'ailleurs, le ministre Champagne a refusé de dire si le CN allait payer ou pas. Là. Mais ça a l'air qu'ils sont à la table de négociation, puis qu'ils parlent. Tout ça pour dire que, donc, le ministre Champagne réévalue. OK, je vais peut-être en demander moins à Québec, puis je vais peut-être... On ne sait pas exactement ce qui va arriver avec le pont de Québec. Mais ce qu'on sait, c'est que le ministre Champagne est en mode solution. Et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'hier, moi, j'ai écouté attentivement l'entrevue que le ministre Champagne a accordée à Myriam Segal. Et voici grosso modo, et je vous jure que j'ai pas fait de copier-coller, c'est juste... strictement ce qui s'est passé dans l'entrevue.
Des parties collées sans plus.
C'est ça. J'ai enlevé du poil, mais je n'ai pas rajouté. Voici comment moi j'ai entendu l'entrevue au cours de laquelle le ministre François-Philippe Champagne est en mode solution.
François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités au fédéral, bonjour.
Merci de le mentionner parce que moi, je suis en mode solution. On n'a jamais été aussi proche d'une solution finale. Je viens de Québec, je comprends la valeur patrimoniale et je suis en mode solution. On est en mode solution. Maintenant, on parle de quelques millions de dollars par année sur 25 ans pour avoir une solution. On est en mode solution, on regarde. Ils sont aussi en mode solution. Lorsqu'il nous manque, pour arriver à une solution finale, puis là, je vous parle là, de citoyen à citoyen, on est proche d'une solution, on y manque juste un petit peu. Okay. Mais moi, je suis là en mode solution parce que moi, je suis en mode solution.
Hey, t'as-tu compté le nombre de fois que tu es en mode solution?
Je voulais les compter, j'ai oublié.
Je pense que j'ai compté 7.
Ah non, il y a plus que
c'est
ça.
C'est sûr qu'il y en a plus que ça.
Plus que ça?
7, c'est dans la première seconde.
Ah, d'après moi, il doit en avoir 10, 12, certains. Puis je vous dis, j'ai rien rajouté.
La politique à son meilleur.
Quelques réactions avant de prendre une première pause concernant les différentes discussions qu'on a eues ce matin. D'abord, OK, non, je vais revenir à celui-là. Il y a un auditeur qui nous dit « Bonjour à vous, j'ai vu mon premier kamikaze en moto ce matin. Duplessis direction Nord. » On évite Duplessis direction Nord tant qu'il y a un gars en moto là-dessus. Mais ça, on va y revenir parce que c'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, pneus d'été et moto, c'est permis. C'est permis, mais c'est aussi plus que casse-gueule. J'haïs pas l'expression kamikaze ici.
Hey, les icebergs commencent à fondre, là, puis il y a des lacs partout. On est en train de se transformer en flaque d'eau. Là. Bonne idée.
Concernant la réaction de Bissonnette à la fusillade en Nouvelle-Zélande, un auditeur nous dit « Bissonnette s'en va en appel. Il a intérêt à essayer de bien paraître. C'est simplement une astuce. Mm. » C'est exactement l'impression que ça nous donne.
Ouais.
Maintenant, je suis obligé de dire que dans son cas précis, là, l'histoire de la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans, je pense pas que la Cour suprême ou le juge qui sera chargé de... La Cour suprême, ce serait éventuellement, mais je pense pas que les gens qui vont être chargés de juger de l'appel soient vraiment influencés par « Oh, le tipit, y a-tu réagi à la fusillade de la Nouvelle-Zélande ou pas? » Ça change rien. Là. Honnêtement, là, la question, ça va être de savoir, c'est-tu constitutionnel ou anticonstitutionnel? Est-ce que le juge Huot, légalement, avait raison de faire ça, oui ou non? Mais là, après ça, Bissonnette, on le sait qu'il est coupable. Tu sais, il n'y a pas de... Pour moi, ça change... Sa réaction ne changera rien à la suite des choses, évidemment. Si un jour, on pouvait plus créer de comptes fictifs sur Internet, là, les personnes y penseraient deux fois avant de faire des menaces. Ben, peut-être. Effectivement, mais ça reste que... Comment tu fais ça, tu sais? Il y en a des policiers qui scrutent le web, là. À toutes les fois qu'il se passe des événements comme ceux-là, soit dit en passant, il y en a des policiers qui sont affectés à regarder les réseaux sociaux, lire les commentaires, s'assurer qu'il n'y a pas d'incitation à la haine, ces choses-là, mais... créer un compte fictif, là, t'as peu, rendre ça illégal, créer un compte fictif, c'est pas si simple que ça.
En fait, c'est difficile parce que tu peux avoir aussi, si mettons, on prend les cartes, là, ça peut être des fausses cartes. Tout ça, c'est vraiment difficile à réglementer le web à la base.
Ouais.
Il y a Martin qui nous écrit par rapport au pont de Québec qui dit, hey, rappelez, s'il vous plaît, qu'à la dernière élection fédérale, les libéraux promettaient de régler le cas du pont de Québec en
oui,
6 mois.
Exact.
Merci, M. Duclos. Merci, M. Lightman.
Les 6 premiers mois.
Hey.
Ils nous l'avaient promis.
Ça, c'est rapide.
Là, on est à 1 an des élections. Et si j'avais un vieux 2 en papier à mettre, je le mettrais sur le fait qu'il n'y aura rien d'annoncé avant la prochaine
rien
élection.
Rien qui va bouger.
À rien.